France Culture.
Comment éduquer à devenir des hommes ceux que l'on considère moins que les chiens qui les chassent ? Simon Johanin. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui prêtera ce soir l'oreille aux cris des séquestrés, des torturés, des asservis et des condamnés aux cris de bagnards, les enfants bagnards parqués dans le bagne puéril et insulaire de l'île du Levant, cadre d'une révolte tragique à la fin du Second Empire. Un événement redécouvert et mis en scène par le romancier poète Simon Johanin dans son dernier livre, Le fin chemin des anges, paru aux éditions de Noël dans la collection Locus, chronique en second temps d'émission, signé Jean-Pierre Dionnès, Terteillard et Fausto Fazulo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui reçoit ce soir Simon Johanin. Bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir. Vous appartenez à cette catégorie d'auteurs dont on se dit, mais pourquoi on a attendu toutes ces années? Vous êtes comme Christophe Siébert. On dit, mais ça fait des années que vous auriez dû venir, mais pourtant, bon, ben non, on attendait et on a eu raison d'attendre puisque le livre de ce soir, Le fin chemin des anges, n'est pas n'importe quel livre. C'est un livre enquête, c'est un livre témoignage. J'ai presque envie de dire c'est un livre credo, puisque vous y mettez beaucoup de vos convictions personnelles.
On se lâche un peu, ouais.
Ouais.
Oui, en fait, je pense que c'est le quatrième roman que j'écris. Les autres avaient plus une empreinte, disons, très contemporaine, ou en tout cas très connectée aux époques que moi j'ai traversées personnellement, aux affects que j'y ai vécu et ce à quoi j'ai pu me brûler ou voir le monde brûler. Il se trouve que l'île du Levant, je la connais bien depuis maintenant pas mal d'années et j'ai découvert, voilà, par un faisceau de circonstances, la voix d'un ami, un dessin sur le mur d'une maison que je fréquente là-bas et un peu de recherche, cette histoire de la révolte du 2 octobre 1866 sur l'île du Levant. Et ça a mis un petit peu de temps à éclore, à pousser en moi, mais il y a eu une nécessité de prendre en charge cette histoire. Ouais. Ouais.
Et au sein d'une collection dont on parlera, la collection Locus, la collection vouée aux lieux de mémoire, mais aux lieux de mémoire oubliés, désertés, pas les lieux de mémoire organisés. Soyez le bienvenu à Mauvais Genre. Vous soyez le bienvenu également, Jean-Pierre Dionnet.
Oui, je
mais qu'est-ce qui se passe
d'être revenu.
Mais oui,
ici.
Qu'avez-vous fait pendant tout ce temps?
Oh, j'ai fait la pancarte pour les 50 ans de la revue Métal Hurlant.
Oui, ben, on en a parlé.
Ce qui ne nous rajeunit pas.
Ouais.
Mais enfin, ça y est, c'est fini.
C'est fini.
Je peux passer à l'avenir. Et j'y songe, d'ailleurs.
À chaque fois que je vous vois, vous me parlez de l'avenir. Donc,
oui,
vous
oui.
Vous n'êtes pas un nostalgique, vous êtes un entrepreneur.
Oui, non, mais il ne faut pas vivre dans le passé.
Ben oui, j'ai compris ça.
Et quand on va dans 49 endroits pour raconter comment c'était il y a 50 ans, on finit par avoir mal partout, comme s'il y avait eu 50 ans, plus les années pilotes, donc 60 ans de travail, quoi. 60 ans de travail, ça nous rajeunit pas, dit-il en s'appelant au pluriel.
D'autant plus que j'ai cru apprendre que Métal Hurlant en salle des ventes se portait très bien, puisque la couverture originale de Philippe Druillet pour le numéro 2 a atteint des sommes pharaoniques.
165 000 euros.
Bah dites donc.
Et en fait, elle est très différente du journal, parce qu'il a fait ça avec des acryliques très violente, donc avec des fuchsias, des verts émeraudes, qu'on n'a jamais vus sur le journal. Et je pense qu'on peut compter, en plus, d'ici un ou deux mois, sur le retour au dessin de Philippe Druillet.
Oh là.
Ça ne devrait pas être triste.
Bah,
ou plutôt, ça devrait être épouvantable. Voilà.
D'autant que la Galerie Barbier, qu'on salue, a publié un épais volume sur Dracula Druillet.
Oui, en fait, essentiellement à cause du personnage de Nosferatu,
ouais.
Parce qu'il avait été outré par l'adaptation de Herzog. Heureusement, il n'a pas vu le Nosferatu suivant de Eggers. De toute manière, Nosferatu, ça fait partie des choses... C'est dur de reprendre Nosferatu. Passé le pont, les fantômes vinrent à notre rencontre.
Absolument. Vous confirmez sur Herzog, Fausto Fazulo?
Moi, j'aime bien le Herzog et le Eggers, donc je sais pas si... Et, en fait, je crois que j'aime tous les Nosferatu, donc je vais me faire crucifier à cette table.
Ah, mais c'est le mal qu'on vous souhaite.
Non, c'est celui qui dit qu'il l'est.
Bonsoir Esther Taillard.
Bonsoir François.
Avec vous, on va parler de Simon Johannin, que vous connaissez bien, et puis de son œuvre, que vous connaissez également bien, mais on a une manière de l'aborder pendant quelques minutes, on n'en dit pas plus.
Et des frères Karamazov aussi, François.
Et alors voilà, la deuxième événement, la traduction de ce polar méconnu qui est de donc les frères Karamazov, c'est la deuxième traduction en 2 ans.
Oui.
Une première chez Gallmeister qui était là pour bousculer un peu les traductions traditionnelles dont on disposait, et puis là une nouvelle traduction de Sophie Benesch. C'est extraordinaire cette ruée sur les Karamazov. Alors vous nous direz si vous avez été convaincu, vous qui connaissez le texte à peu près par cœur.
On verra
tout cela. En attendant, eh bien, laissons-nous attirer dans le bagne oublié grâce à Laurent Polleret. C'est le côté urbex de notre ami Laurent Polleret, des résonances, des coups sourds, des présences inconnues, un endroit un
c'est
peu...
C'est lui qui rentre chez soi, qui chez lui le soir en fait.
Et voilà, et on entend ça dans la cage d'escalier, c'est ce qu'on entend, ou dans la cave. Alors Simon Johannin, c'est 2017 qui vous a propulsé auprès du public avec L'été des charognes. Qui est assez proche en définitive du livre dont on va parler ce soir, puisque les héros de l'été des charognes auraient pu parfaitement finir au bagne du Levant.
Tout à fait, oui. Oui, on peut complètement voir les choses comme ça, dans le sens où c'est des enfants pauvres et libres, et que ça suffisait à l'époque, puisque le vagabondage, comme la mendicité, était considéré comme des délits, et donc il suffisait d'être un enfant seul sur les routes, en tout cas non accompagné, et d'une allure peu recommandable, ouais, pour être accusé, puis acquitté, puisque c'était le processus par lequel ces enfants se retrouvaient placés pour souvent 2, 6, 8, 10, 12 ans, jusqu'à 21 ans, pour une grande partie d'entre eux, jusqu'à la majorité, dans ces charmantes colonies pénitentiaires.
Alors ces personnages donc de l'été des charognes, votre premier roman, ont déjà cette matière humaine qui est celle donc des jeunes détenus dont vous nous parlerez tout à l'heure. Alors une caractéristique de votre parcours, Simon Johannin, vous êtes un auteur Alia. Je veux dire par là, oui, vous êtes un auteur qui publiait chez Gérard Bérébi aux éditions Alia, ce qui est quand même un club très fermé, mais quand même un monde tout à fait étonnant, exceptionnel.
Dans lequel je suis arrivé complètement par accident.
Comment on arrive chez Alia?
Alors, c'est très simple. Il suffit de croiser Gérard Bérébi par hasard, d'essayer de fourguer un manuscrit, de se faire complètement envoyer paître. Et puis 2 semaines après, il vous appelle en vous disant qu'il a lu votre livre. Voilà, alors un espèce de tour de magie qui se passe à ce moment-là, étant donné qu'il a pas récupéré le manuscrit. Et donc moi, en fait, j'ai eu de la chance parce qu'il se trouvait que vraiment c'est le hasard de la vie. L'un des membres de mon jury, parce que moi j'étais étudiant au moment où j'ai écrit L'été des charognes, c'est un projet d'école d'art de 3e année, donc noté par un jury extérieur. Un des membres de ce jury, Gilles Collard, ami avec Gérard Bérébi, devait lire L'été des charognes. Moi, je croise Gérard Bérébi, que je ne connais absolument pas, en lui demandant si ça ressemble à ça, un manuscrit qu'on envoie par la poste. Il me dit oui. Je lui dis ce que vous le prenez. Il me dit absolument pas, parce que si j'avais que ça à faire de récupérer les manuscrits qu'on essaie de me fourguer, il me faudrait une valise en plus. Et donc je m'arrête là, hein, parce que le très fermé, hein, le monsieur, mais bon, voilà, on pose quand même une ou deux questions, et mais ça reste d'une froideur extrême, glaciale. Et deux semaines après, donc, il m'appelle. Il se trouve qu'il hébergeait Gilles, hébergeait Gérard, puisque les deux sont amis, et que, puisque Gilles devait lire mon manuscrit pour le noter, tout simplement, il a glissé des mains de l'un à l'autre. Voilà, par hasard, c'est vraiment un concours de circonstances, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors ensuite, j'ai rencontré Gérard Bérébi à la terrasse d'un café de Bruxelles. Voilà, il m'a dit qu'il fallait que je finisse mon livre, puisque c'était pas le cas. Ce que je me suis attaché à faire. Disons qu'en fait, voilà, j'avais la première page devant lui et il y avait un gros point d'interrogation rouge à côté d'une phrase qui n'avait pas de sens. Il m'a dit peut-être continuer à travailler un peu. Il y a une matière, mais il y a deux trois trucs à régler encore. Et, ce que je me suis attaché à faire et ensuite on s'est re-rencontré quelques semaines après et c'est comme ça que je suis arrivé à 23 ans avec l'été des charognes.
Il y a déjà 2017, tout votre univers quasiment, on
peut dire. Oui, beaucoup de
sauvagerie,
choses.
Sauvagerie, lyrisme.
Oui, alors l'avantage que j'avais au moment où j'ai écrit l'été des charognes, c'est que j'étais extrêmement naïf, je savais pas du tout ce que je faisais. Et donc j'ai pu goûter, voilà, je faisais pas partie de ces jeunes écrivains écrasés par une matière qu'ils auraient emmagasinée comme ça, et donc des modèles un peu tutélaires. Voilà, moi j'étais j'avais lu adolescent, mais j'avais eu le temps de l'oublier. J'avais beaucoup fait la fête et donc ça m'a permis d'un peu de nettoyer mon cerveau à cette époque-là.
De vos lectures d'adolescent.
Exactement, voilà. Ah. J'avais resté quelques bribes comme ça de Coltès, de Cocteau qui se mélangeaient, mais il y avait de la place, quoi. Et donc évidemment, il faut lire pour écrire, donc je me suis remis à lire ardemment au moment de l'écriture de l'été des charognes, mais j'étais très naïf dans le geste. J'ai pu goûter à cette sensation, je pense, qui est très rare et à laquelle on ne peut goûter qu'une fois si on la croise, d'une liberté totale. Quoi. C'est-à-dire de ne pas être dans l'angoisse de est-ce que ça va être bien, est-ce que ça ressemblerait à quelque chose que j'aime ou que j'adule, mais juste pour la première fois de ma vie, j'ai fait, je pense, l'expérience fondamentale de la liberté, c'est-à-dire d'être seul face à moi-même, mais de pouvoir faire absolument ce que je voulais et de partir dans toutes les directions qui venaient à moi, parce qu'en réalité, bon, les livres se font aussi un peu tout seul, hein, donc moi j'étais sur ma table basse, je travaillais, mais je me rendais assez peu compte de ce que je faisais. C'est après que j'ai compris que j'étais en train de faire un livre.
Et vous êtes resté donc chez Alia, là, d'autres titres sont venus. Il y a un autre qui paraît en ce moment, Demande à la brûlure, c'est de la poésie. Alors la poésie, la poésie, ce sont des fragments, des éclats de texte, des brièvetés comme ça. Est-ce que c'est de la poésie? Ça, c'est vous qui le savez. Comment vous organisez un peu le passage de l'un à l'autre? J'ai le sentiment que c'est la même chose sous deux formes différentes.
Oui, en fait, pour moi, c'est des temps de travail différents. La poésie, c'est des moments qui sont consacrés à l'écriture de la poésie ou de ses formes brèves, on peut les appeler comme on veut. Voilà, qui peuvent être très segmentés, séparés les unes des autres. Le roman, il demande un temps de travail plus étalé dans le temps et bon, dans le roman, il y a toujours une forme de tricherie qu'on trouve pas dans la poésie. Il y a quelque chose d'essentiel. C'est comme l'aboutissement des autres formes de l'écriture pour moi, quoi. C'est une manière d'être dans un rapport de sincérité totale avec ce qui me travaille et ce que je travaille par l'écriture. Et plus le temps passe et moins je fais vraiment la différence, ça s'entrecroise.
Vous avez fait des études de cinéma en Belgique notamment, et quel est le poids du cinéma dans votre... Parce qu'on pense, quand on vous lit, à, je sais pas, Massacre à la tronçonneuse, Waking Fright...
Je suis flatté.
Oui, c'est un peu cet univers white trash, il y a un côté Maxime Lachaud, si j'ose dire, le motel du Bayou, le crocodile géant vient vous dévorer.
Le cinéma redneck, quoi.
Hein?
L'esthétique du redneck.
Voilà, il y a. Ouais. Mais ben, c'est pas vraiment les rednecks, c'est plus le white trash. Je pense qu'on va pas se lancer dans des débats théoriques, monsieur Jean-Pierre.
Moi, j'ai plutôt pensé, vu que monsieur a fait des études de cinéma, à une voix off lancinante, une voix à la Laura, qui vient tout le temps nous parasiter, dans le genre, la première fois que j'ai vu Laura, c'était à son enterrement.
Ouais.
Voilà.
Alors, Johanna, entre Waking Fright et
Laura. Je suis un peu de tout ça. Pour ce qui est de la voix off, effectivement, parce que j'ai ce truc de l'écriture, d'écrire par le jeu. C'est toujours un narrateur qui parle pour lui avant de s'adresser à nous. J'arrive pas à penser autrement qu'à travers la psyché de quelqu'un d'autre, qui serait une déformation de la mienne, plus ou moins. Et pour ce qui est de la nuque brûlée de mes personnages, oui, parce que moi je suis originaire du sud et c'est vrai que le soleil tape fort. et peut faire parfois des dégâts.
Livre est un coup de soleil.
Donc exactement. Et donc, en tout cas, je me reconnais dans la littérature, ce qu'on appelle le sous-nerd gothique américain, Harry Cruz, etc. Ça fait vraiment partie des choses avec lesquelles je voyage et je me suis formé et auxquelles je m'apparente, mais plutôt du côté de Narbonne ou de la rade de Toulon, quoi.
Très bien, ben on va en savoir un peu plus d'ailleurs sur la rade de Toulon dans quelques minutes. Alors Esther Taillard, on va aller à la rencontre de Simon Johannin, mais grâce à un questionnaire que vous avez trouvé et qui fait mouche.
Tout à fait François, c'est le questionnaire des surréalistes, le questionnaire que notre cher André Breton posait à ses potes lors de leur soirée arrosée. Il commençait Simon par cette question, que faites-vous lorsque vous êtes seul ?
Je regarde beaucoup le plafond. Ouais, je suis beaucoup dans le silence. Je regarde beaucoup le plafond et je lis beaucoup. Je regarde le ciel. Enfin, je suis très contemplatif d'une manière générale puisque j'ai peu l'occasion d'être seul, donc j'en profite. Je suis d'une nature assez introvertie et donc je parfois j'écris aussi, ça m'arrive. Mais je dois admettre que c'est pas la manière principale dont j'occupe mon temps seul.
Bien justement, ça, c'est parfait pour cette deuxième question. Pourquoi écrivez-vous, Simon ?
Parce qu'il faut bien faire quelque chose. Premièrement, je trouve que la vie est une aventure à la fois très courte et très longue, et que l'écriture, j'ai une vraie jubilation à l'écriture. C'est pas un geste qui est nécessairement douloureux pour moi. Et donc, c'est d'abord une question de plaisir. J'ai un vrai plaisir, et je pense que j'écris parce que c'est l'endroit où je me rassemble. C'est-à-dire que c'est l'endroit, l'activité à travers laquelle j'ai la sensation que les contours de mon être sont parfaitement définis et nets, alors que le reste du temps, je suis plus fragmenté et plus en porosité avec le reste.
Alors, une troisième question, mais on gardera la dernière pour la fin.
Une troisième question absolument indiscrète. Quelle sorte d'espoir mettez-vous dans l'amour ?
Tout, je crois. S'il n'y a pas d'amour, il y a quoi ?
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Mauvais Genre qui reçoit ce soir Simon Johannin pour Le Fin Chemin des Anges aux éditions de Noël. Alors c'est le premier volume de la collection Locus qui est dirigée par Anna Kachaturova et un texte programmatique accompagne une des dernières pages du livre qui vous présente donc les deux premiers titres, l'autre celui de Laura Ulonati, Terra Murata. Mais bon, la plupart du temps, les textes programmatiques sont un peu tartignoles, mais là, ça fait exception parce que je le trouve très très beau. Tout lieu abandonné est une énigme. Derrière chaque bâtisse rongée par la décomposition transparaît une histoire particulière, personnelle, familiale, sociale, qui un jour s'y est arrêtée. Mais peut-on jamais quitter un endroit qui a compté, qui nous a vu évoluer, espérer, souffrir, renaître ? Faire le récit d'un lieu déserté, c'est ressusciter les âmes qui l'ont peuplé et raconter les raisons de leur exil. Est-ce que vous connaissiez ce texte avant de commencer, Simon Johannin ? Racontez-nous un peu le démarrage. On en a esquissé la chose, mais on y revient.
Non, parce que je crois que le texte n'existait pas en l'état au moment où j'ai rencontré Anna et on a décidé de travailler ensemble et d'ouvrir cette collection dont le but est d'inviter des auteurs et des autrices qui sont traditionnellement plutôt identifiés ailleurs à venir faire un ouvrage au sein de cette collection autour d'un lieu de leur choix. En revanche, oui, j'en ai eu connaissance sur la maquette, il me semble. Voilà, on en avait discuté avec Anna, elle m'avait demandé mon avis dessus. Et je le trouvais intéressant, de toute façon, d'une manière générale, l'idée de cette collection, parce qu'on est assez loin de l'idée que je trouve parfois aride de l'urbex, ou en tout cas de la simple... voilà, visite du vestige, mais plutôt de se pencher sur la connexion profonde qu'on a à un lieu, voilà, abandonné qu'il l'ait été par l'histoire ou qu'on l'ait laissé derrière soi. Voilà, moi par exemple, pour ce qui concerne le bagne de l'île du Levant, il est abandonné, voilà, à plusieurs égards, puisque c'est un endroit où on peut même plus se rendre, puisque les vestiges sont dans une zone militaire. Donc j'étais loin de cette idée qu'il faut visiter ou voir les pierres pour savoir. Et cette collection, je trouve qu'elle fait sens aussi à cet endroit-là, puisque c'est d'abord par nous et en nous que ça s'agite.
Alors, racontons un peu à nos auditeurs l'histoire de ce bagne du Levant. Bah, 19e siècle, c'est celui à la fois évidemment de l'industrie, la misère sociale, l'écrasement des populaire et tout cela, mais c'est aussi le siècle de la philanthropie et des actions comme ça. La grande bourgeoisie trouvait qu'il était nécessaire et de son devoir de gérer la société selon des codes qui sont ceux, le soutien, l'assistance ou même la police. Alors là c'est pareil, c'est la grande bourgeoisie qui achète une île, enfin qui sur une île investit dans des colonies pénitentiaires où on est à la fois dans l'orphelinat traditionnel de l'époque et dans l'usine. Enfin, en tout cas, faut que ça rapporte quand même.
Tout à fait. C'est assez ambigu l'histoire de ces colonies. Donc, tel que moi, bon, avec ma méthodologie d'écrivain, donc je précise, je suis pas historien.
Vous êtes quand même allé dans les archives du Var.
Hein. Voilà. Mais en fait, ce que j'ai compris assez rapidement, c'est que bon, à l'époque, en fait, il y a pas vraiment de quartier pour mineurs en prison. Vous avez juste la petite Roquette, qui est la seule prison pour enfants dédiée aux enfants de France, qui est apparemment la prison avec le plus haut taux de mortalité. Et donc, ce qui est dit, c'est que suite à une visite de la prison par l'impératrice Eugénie, excusez-moi, les enfants ayant connaissance de sa présence dans les couloirs l'insultent. Et à la suite de quoi, voilà, il y a un mouvement, voilà, de penser pour récupérer un peu ces hommes perdus. Et tout ça fait aussi, voilà, en fait, prend son écrin dans l'essor de l'industrie et donc dans la naissance des faubourgs, des gamins des faubourgs, une espèce de nouveau prolétariat comme ça, qui vagabonde et qui fait mauvais genre, justement. Et donc sont créées en 1850 ces colonies pénitentiaires qui ne dépendent pas directement de l'État, c'est-à-dire que ce sont des propriétés privées, voilà, sous autorisation de l'État, mais avec des règlements privés, etc. Donc c'est sous contrôle de l'administration pénitentiaire, mais ce sont pas des institutions pénitentiaires qui dépendent directement de l'État, ce qui en fait pousse très vite à la corruption, puisque chacun fait un peu ce qu'il veut, dans la mesure où en plus ces colonies sont très isolées, donc soit sur des îles, soit sur des grands causses, ce qui rend les contrôles difficiles, et puis bon, les propriétaires s'arrangent très bien, et ce qui au début était présenté comme un projet philanthropique devient très vite en fait un système d'exploitation, puisque ces enfants ne coûtent rien, et ils rapportent même de l'argent, puisque pour chaque enfant, le propriétaire touche un pécule directement versé par l'État. Alors, les enfants sont censés toucher, voilà, un petit revenu pour leurs travaux, mais ils sont en réalité systématiquement soumis à l'amende pour des faits qui vont de l'ordre de une chemise abîmée, mais quand
oui, c'est Jean Valjean.
Oui, voilà.
Un pain, une
exactement.
Pomme.
Alors ça c'est leur motif de condamnation. Oui, on pourra en venir ensuite. C'est des gamins qui prennent 10 ans de tôle pour avoir volé une pomme. Ça, c'est voilà, on a l'impression qu'on est dans le roman des romans, mais en fait ça s'est littéralement passé comme ça. Et donc voilà, on les fait grandir là-dedans et on essaie de développer leur force de travail, et puis on les fait travailler, on les exploite soit dans des colonies agricoles comme c'était le cas au Levant, où on cultivait le vin et on fabriquait des pipes en racines de bruyère, soit il existe aussi des colonies industrielles, donc des ateliers, voilà, à Nian.
Et donc au Levant il y a cette colonie.
Oui.
Ce que vous avez étudié, puisqu'il y a des documents, il y a des articles de presse, mais aussi des documents administratifs, des lettres administratives qui sont produites dans le livre, parce que tout ce qui va se passer au Levant s'achemine vers une sorte de tragédie totale,
oui.
D'incendie, et les enfants disparaîtront dans l'incendie. Incendie d'ailleurs dont l'origine est assez...
Et l'origine, on la connaît, on sait qui a mis le feu aux poudres. C'est une petite bande, un petit groupe de détenus, d'enfants, voilà, qui profite du fait qu'un contingent de Corse arrive sur l'île, et donc parce qu'on a fermé une colonie en Corse, donc 80, voilà, environ 80 détenus arrivent sur l'île. Donc d'autres enfants qui dans cet endroit qui est déjà en surpopulation, donc là, c'est déjà très tendu, et il y a quelques gosses qui pètent un peu les plombs, et même carrément, et qui décident d'en enfermer un certain nombre et de mettre le feu au magasin dans lequel ces enfants sont enfermés, ce qui conduira à la mort de 14 ou 15 d'entre eux. On n'a jamais, voilà, d'après le rapport du médecin légiste, on n'arrive même pas à dénombrer le nombre exact de victimes. Et moi, ce qui m'a interpellé d'abord quand j'ai appris cette histoire, c'est que j'ai voulu comprendre. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi leur lien? Qu'est-ce qui les a fait agir de la sorte? Et quand je me suis plongé dans les archives, ce qui est apparu de manière limpide tout de suite, dès la création de la colonie, c'est que tout est là pour qu'il se passe quelque chose de terrible et que ce qui est advenu advienne. C'est-à-dire que structurellement, on sent tout de suite que l'absence de cadre pour ces enfants, la maltraitance, la violence qu'ils subissent et leur niveau de tension, leur niveau de révolte, fait que ça va forcément mal se passer.
Jean-Pierre Dionnet.
Oui, moi, ce qui m'a frappé, c'est donc notre voix off, notre personnage qui va s'y rendre et qui va découvrir dans sa tête l'existence, on peut dire, d'une fleur de pavé, d'un petit garçon qui, malgré tout, voit les choses positivement, qui va rencontrer un autre petit garçon qui voit les choses positivement, et ils vont se créer un lien très particulier, contre tout, mais quelque part, il y a une part de rêve qui, au moment où ils sont ensemble, ils ne sont pas dans le bagne. Ils vivent vraiment entre eux, ils sont connectés ensemble, et oui, on est chez Bruant, on est à fleur de pavé, c'est-à-dire qu'ils arrivent à créer cette lumière, et moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est un livre d'une noirceur immense, et en même temps, il y a des petits éclairs de lumière qui sont individuels, comme le sont toujours les éclairs de lumière, hein. Collectivement, c'est de la fausse lumière, c'est des néons. Et moi, j'étais très touché par ce déséquilibre. C'est-à-dire que d'abord, il est attiré par une voix, comme une voix de sirène. Il comprend de qui il s'agit. Il est habité par cette voix, et ça me fait penser, ça n'a absolument rien à voir, sinon le titre, à la suite de Ender, La Voix des Morts, où tout d'un coup, il y avait cette voix qui disait que Ender était un monstre, et tout s'inverse. Eh bien là, je dirais qu'il y a cette lumière, alors les précédents que j'ai commencé à lire m'ont l'air beaucoup plus effrayants, les précédents livres de l'auteur. Et celui-là, je trouve qu'il y a tout d'un coup ce miracle presque hugolien. Ces petits moments de joie qu'on trouve d'ailleurs essentiellement dans un cinéma japonais ou chez Kim Ki-duk en Corée, par exemple, où il y avait des moments comme ça... comme l'homme de l'arc qui se sert de l'arc pour séduire une femme avec son archer ou pour tuer un poisson. Je suis toujours séduit par ce basculement qui était celui de Sandrard et de Moravagine aussi. C'est des moments de joie dans des lieux impossibles. Et ça se retrouve dans tout le siècle qui suit. On peut même dire qu'aujourd'hui, on va pas faire une leçon contemporaine, mais on pourrait dire qu'au nom de l'écologie, des bagnes d'enfants, il en existe actuellement. Hein, puisqu'il faut bien qu'on ait nos téléphones, il faut bien qu'on ait nos voitures électriques. On tourne la tête. Donc le problème a changé, mais il n'a pas changé, c'est que ça se passe ailleurs. Et là, c'est cette France qui était à ce moment-là terrifiante.
Il y a ceux qui, après avoir volé la porte de bois d'un fort abandonné, s'en servirent comme d'un radeau, et à trois dessus tentèrent de gagner l'île voisine. À eux la liberté, pour aller où ensuite? On ne s'échappe pas d'ici. Tous furent attrapés et passés par les fers, dont les bruits hantent encore les sentiers et les ruines. Il y a eu ceux qui, désespérés ou fous, pelèrent l'écorce des chênes-lièges, enroulèrent les morceaux dans leurs draps et se jetèrent à l'eau, tenant contre eux ces flotteurs de fortune. Pour aller où ? On ne s'échappe pas d'ici. Il y a eu vos morts, Louis. Au travers de la terre, j'entendais leurs murmures. Les dizaines d'enfants enterrés ici, restés prisonniers de l'île. Tous ces petits colons n'iraient pas nourrir les vers et les fourmis aux abords de leur ville. Jamais rien ne serait rendu aux familles, aux ancêtres, au peu de terre sur laquelle on avait tenté, en vain, de les faire pousser droit, sans ce qu'il faut d'appui, sans les tuteurs ou les bras auxquels se raccrocher quand le corps fait tempête. À la place, on vous fit creuser des trous dans la terre dure, des trous dans la terre sèche que l'on ne peut dompter, dans la terre caillouteuse où les racines ont soif, des trous peu profonds, pas assez profonds, creusés par vos mains de camarades, amis ou ennemis, vos petites mains d'hommes qui maniaient pelles et pioches pour offrir à vos frères un dernier abri, des croix sans nom, les unes à côté des autres, colons ostracisés jusqu'au cimetière que personne ne connaît, que personne ne visite et qu'on ne veut se rappeler. » Après ce qu'a dit Jean-Pierre.
Oui, ben j'abonde complètement dans ce que vous dites, dans le fait que c'est une violence envers les enfants qu'on a délocalisés. Effectivement, nous, ça appartient à un passé. Un passé à la fois lointain et proche, mais ce système capitaliste dans lequel ces enfants, dans sa version, presque archaïque à l'époque, dont ces enfants étaient les victimes, on le retrouve de manière exponentielle aujourd'hui. Il y a un continuum. En tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse avec cette histoire, c'est que je me suis rendu compte assez vite qu'à plein d'endroits différents, il y avait un continuum d'exploitation et de violence entre le récit, l'histoire de ces enfants. La condition de l'enfant justiciable aujourd'hui et aussi des enfants placés dans la mesure où, enfin en tout cas dans le sens où, dans la valeur qu'on leur accorde, c'est-à-dire que aujourd'hui comme hier, c'est des destins que collectivement on accepte de voir s'effondrer et comme ça il y aurait comme une espèce de fatalité ou un mauvais sort dont certains d'entre nous feraient à la naissance et c'est plutôt celui qui s'en sortirait qui serait une exception. Et là, il y a un vrai continuum dans la manière dont on perçoit certaines personnes, certains enfants, et c'est des habitudes, des fausses vérités contre lesquelles il faut se battre.
Alors, pour mettre en scène cet univers, donc ce bagne d'enfants des îles du Levant à la fin du Second Empire, avec sa révolte, donc pour évoquer tout cela, vous avez créé un personnage, une sorte de narrateur, qui a capacité à percevoir le cri des morts, le cri invisible. Dans un lieu, il entend les cris comme ça qui sont accumulés un peu comme la poussière ou sur les murs, une espèce de patine comme ça, et les cris viennent vers lui. C'est quelque chose dont vous avez vous-même fait l'expérience.
Alors d'entendre les morts à ce point-là, non. Heureusement pour moi d'ailleurs, parce que Lucas, le narrateur, subit. On présente souvent la médiumnité.
Mais c'est pas parce qu'on entend les morts qu'il faut leur répondre.
Ouais, qu'il faut les écouter, ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec lui. Mais c'est vrai qu'on a souvent cette idée, en tout cas assez romantique, d'une forme de médiumnité qui serait un don ou une forme de plus-value dans le monde qui ferait des êtres supérieurs. Moi, je vois ça par le prisme de ce récit comme une véritable souffrance, c'est-à-dire que cette capacité qu'a ce personnage d'entendre les morts, et en particulier les morts qu'il entend, c'est les morts stagnantes, c'est les morts qui sont pas bien morts, c'est les morts qui ont pas réussi à aller au bout du processus et qui donc sont bloqués là, soit parce qu'ils ont trop souffert, soit parce qu'ils ont trop fait souffrir, mais il y a quelque chose de pas réglé, donc il est assailli comme ça par ces voies-là et par les voies de ces territoires qu'il arpente, et en fait il comprend assez rapidement quand il arrive sur l'île que une forme d'instance supérieure. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça pourrait être, mais quelque chose l'a guidé jusqu'à entendre une voix.
Parce qu'il arrive à Toulon d'abord.
C'est ça, il arrive d'abord à Toulon.
Il entend les prostituées, les coloniaux,
exactement,
les marsouins, le cri des militaires, l'espèce de folie comme ça.
Oui, tout à fait. Et de toute façon, c'est des histoires qui sont liées parce que la colonie pénitentiaire du Levant, comme toutes les colonies pénitentiaires, était un centre de recrutement pour les bataillons d'Afrique.
Ben, on leur disait, si tu veux t'en aller, tu signes.
Exactement, oui.
Le Levant ou Biribi.
Oui, c'était un peu ça. Hein. D'ailleurs, j'ai reproduit dans le livre des documents où on estime que des gamins qui ont 16 ans sont assez vigoureux pour s'engager et défendre leur pays. Donc, on les propose à la préfecture comme de voilà, puisqu'ils sont libérables potentiellement. En tout cas, on peut accélérer les choses via leur engagement. Donc, c'est effectivement assez frappant.
Esther.
Je vais dire quelque chose complètement à côté, mais moi, en lisant Simon, j'ai pensé à la chanson « Perlimpinpin » de Barbara.
Perlimpinpin,
oui.
À savoir.
À savoir qu'à un moment, Barbara dit cette sublime phrase, elle dit que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance. Et j'ai eu l'impression, en lisant Simon, qu'il y avait une sorte de mauvais sort, de quelque chose de hanté dans cette faculté à ressentir toutes ces souffrances, toutes ces voix. Et en même temps, quelque chose, comme vous disiez, Jean-Pierre, de très pur. C'est cette notion de pureté qu'on retrouve souvent dans votre littérature. Et je serais d'ailleurs curieuse de savoir qu'est-ce que c'est que la pureté pour vous. Parce que c'est très récurrent.
Je pense que c'est plusieurs choses. À un moment donné, mon narrateur engueule littéralement le fantôme de Louis en lui disant « tu t'es pas sali les mains quelque part, tu as eu une existence trop pure, tu n'as pas fait l'expérience du mal, et donc du coup tu es condamné à cet espace dans lequel tu stagnes puisque tu n'as pas fait l'expérience qui est celle que doivent faire les hommes, les humains, qui est de voilà, bon, une version... catholique dirait le péché, mais en tout cas de des affects négatifs. Et je crois que la pureté, c'est ça, c'est-à-dire accepter que on n'est pas forcément des gens bien, on n'est pas forcément des belles personnes. Ça n'existe pas en fait quelqu'un qui serait complètement détaché d'un inconscient collectif qui nous pénètre et qui est chargé de toutes les horreurs du monde. Et donc, en tout cas, le processus de pureté, ça serait un processus d'acceptation de ces parts de nous, d'exploration de ces parts sombres ou pas très belles, et à la suite de quoi, j'estime qu'on a le choix de se positionner sur le type d'existence que l'on veut mener. Mais les nier, ou en tout cas avoir une version hygiéniste de soi-même, de son âme, c'est quelque chose qui est fasciste pour moi, qui est vraiment ce qu'il y a de plus dangereux. C'est dans l'acceptation de sa complétude qu'on arrive à un petit peu de vertu, je pense.
Jean-Pierre ?
Oui, et puis je pense qu'au début du XXe siècle, il y a des réponses chez d'autres écrivains. Je pense à Biribi de Daria,
oui.
Et je pense à son personnage qui s'en sort, le voleur. Je fais un sale métier, mais j'ai une excuse, je le fais salement. Eh bien, ceux qui survivent deviennent tout ce qu'ils ont détesté. Ils deviennent des monstres à leur tour, parce qu'ils ont survécu.
Oui, la question de la survie se pose, puisque là, le personnage est carbonisé.
Oui.
Mais s'il avait vécu, justement.
Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que historiquement, on sait que la plupart des gardiens de ces colonies étaient ou d'anciens détenus ou d'anciens militaires. Et donc, il y a une forme comme ça d'éducation, des très jeunes garçons, parfois des tout petits, parce qu'on a des colons à partir de 5-7 ans dans certaines colonies. Voilà, une éducation à la violence, et ensuite certains d'entre eux sont amenés à reproduire ces gestes sur les suivants. Donc, concernant Louis, je suis pas sûr qu'il aurait été parmi les pires d'entre eux, mais en tout cas, sa mort précoce fait qu'on ne le saura jamais.
On sait bien et en même temps pas si bien que ça. Pourquoi il est là? Enfin, qu'est-ce qu'il a commis?
C'est-à-dire que c'est assez ambigu. Lui, il est là pour un maraudage.
Un maraudage.
Il a volé. Il s'est fait attraper en train de voler un fruit dans un champ, mais il est aussi là parce que malgré lui, il a suscité le désir du juge face auquel il s'est retrouvé. Et donc cette sensation comme ça de désir de prédation de la part d'un adulte sur un enfant. un adulte qui juge l'enfant responsable de ce désir qui naît en lui, ce qui est un peu le principe du prédateur sexuel, hein, de considérer que c'est l'enfant qui drague et c'est l'enfant qui est responsable, mène le juge à condamner lui aussi pour le désir qu'il ressent pour lui. Voilà, c'est quelque chose qui me paraissait important de nommer comme ça, qu'un être comme lui, qui tout jeune déjà dégage une forme de sensualité, en fait, ça n'enlève rien à son innocence et au respect qu'il faut donner à cette innocence qui appartient à l'enfance.
On parlait de cinéma, il y a ce film de Bertrand Tavernier, Le juge et l'assassin, qui a résonné, moi, quand j'ai lu votre livre, c'est qu'on est à peu près dans un même contexte que celui de Galabru dans Le Vacher les Ventreurs, c'est-à-dire ce personnage qui a une balle dans la tête et la balle se promène et génère des accès de démence et de folie. Et génère un comportement criminel de violeur et ventreur. On est face à ce personnage qui a une coiffe blanche en signe de pureté, qui est un dévot de la Vierge. Il y a toute la société du Second Empire, avec ses juges, ses médecins, ses militaires, ses gendarmes, qui doit gérer cette espèce de phénomène extraordinaire. Là, c'est un peu pareil. Là. Il faut gérer ces enfants délinquants, parce que un vieux délinquant, un vieux cheval de retour, comme on dit, type Valjean ou Vautrin, bon, bah ça va. Il a le cuir épais, on peut taper, c'est pas un problème. Là, qu'est-ce qu'on fait avec des gamins qui ont 5 ans?
C'est toute la question, c'est-à-dire qu'à l'époque, en plus, on, d'une manière générale dans la société, que ce soit pour ces enfants placés en colonie pénitentiaire ou les autres, on considère pas l'enfance, on n'a pas notion de l'enfant comme sujet politique. D'ailleurs, vous avez des enfants de bourgeois qui, par le droit à la paternelle, c'est-à-dire le droit du père de famille à placer son enfant en prison, sur simple demande au juge, se retrouvent aussi dans des bagnes. D'ailleurs, les premiers journalistes qui sont intéressés à ces bagnes au début du XXe, Louis Roubaud, Alexis Danan, ouais, le font d'abord en s'intéressant au sort de ces enfants placés par leur père. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Pas grand-chose à l'époque, si ce n'est rien jusqu'au début du XXe siècle où il y a ces premières voix de grands reporters qui s'y intéressent.
Pour qui, combien, quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi, c'en est assez de vos violences. D'où venez-vous? Où allez-vous? Qui êtes-vous? Qui priez-vous? Je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi, s'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes. Je suis pour des forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable.
Simon Johanna, Barbara.
Ça marche sur moi. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est assez systématique. Ouais.
Merci à Laurent Polleret de nous avoir connecté avec Barbara. D'autres personnes ont écrit sur le... Vous apportez une vision, une approche visionnaire, poétique, lyrique, transfiguratrice d'une certaine façon de cette histoire, mais il y a d'autres personnes. J'ai eu un monsieur Claude Gritti, j'ai retrouvé sur le site Retro News des articles. Oui. C'est pas une affaire oubliée non plus.
Non. Il y a Claude Gritti et puis il y a une autre autrice dont je m'excuse d'avoir oublié le nom qui a fait paraître un livre aussi qui s'inspire de cette histoire dans les deux ou trois dernières années que j'ai découvert d'ailleurs après avoir engagé mes travaux. Donc c'est pas du tout un fait oublié en soi. Par contre, il est méconnu de plein de gens, notamment de la communauté levantine en partie. Et en fait, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de réactiver la mémoire. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en tout cas, j'ai la conviction plutôt, que des mémoires comme celle-là, elles demandent à être réécrites et réactivées à l'aune des valeurs, des nouvelles valeurs de la société en fonction de ces évolutions. Et le livre de Monsieur Gritti, il est dans un prisme tout différent du mien, et je pense qu'il m'a nourri par son aspect historique, mais il appartient aussi à son époque, et moi c'était important de faire fleurir d'autres types de masculinité au sein du livre, d'être dans quelque chose de moins chevaleresque, de moins... viriliste, ou en tout cas plus 20e, et d'amener une autre forme de pluralité et de délicatesse dans les personnages.
Étrange est votre histoire de gamins sans attache que l'on voulait sauver de leurs mauvais instincts, que l'on enferma ensemble et fit crever de faim. Étrange cette sous-traitance de la gestion de vos corps à de riches propriétaires qui, indemnisés par l'État pour chaque enfant détenu, cherchaient à faire de vous des bataillons rentables. Le dortoir, la pelle, le règlement où tout est pesé, le pain et la viande, les anciens qui toisent les nouveaux, la forme des couteaux dans les poches que l'on a taillés discrètement à la forge à partir des cuillères du réfectoire, les lits au matelas déjà vieux, remplis de paille ou de buissons hachés, le trousseau, ses trois chemises de toile et ses deux pantalons, deux blouses de coton bleu, deux caleçons de futaine, des guêtres et des mouchoirs, un béret pour l'hiver, un chapeau pour l'été, car on ne vient pas là le temps d'une seule saison. Pierre.
Oui, curieusement, il y a eu une mort récente qui n'est pas si loin de ça, c'est celle de Peter Watkins dans la Creuse. Oui. Peter Watkins, Punishment Park et la le bombe. Reste de son œuvre, c'est avant Thatcher. Et avant l'écroulement de l'Angleterre et la dureté de la pauvreté et tout. Et il était prophète. C'est l'époque également où Peter Brook nous donne le Seigneur des Mouches. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu dans l'Angleterre, qui était plus dur que nous sur l'enfance, hein. Faut bien reconnaître que les collèges anglais...
Oh, Dickens, oui.
Ils n'ont pas changé beaucoup avec la férule et tout au fil du temps par rapport aux écoles françaises. Mais c'est quelque chose, oui, qui revient inlassablement.
La dernière question, Esther.
La dernière question, Simon. Quelle sorte d'espoir mettez-vous dans la mort ?
Le grand repos.
Le grand repos, mais définitif.
Ah oui, ouais, dormir, quoi. Enfin, être tranquille.
Enfin,
ouais,
ouais,
enfin,
enfin dormir.
Ouais, ouais.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve. Effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte. Apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir. Ni les fleurs soupirer, et des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée, où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, ou ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit, ton condamné à mort.
Et oui, on termine avec le condamné à mort de Jean Genet, de vos lectures, si bon.
Oui, bah, oui, 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 c'est un de mes anges, bien sûr. Et qui lui, d'ailleurs, a été interné à la colonie de Maitré.
Voilà, lui, c'était Maitré qui était son île, ouais. Du Levant. Donc, le condamné à mort, chanté par Étienne Dao. Et également la version de Marc Augeret, mais celle de Dao plus lente et plus lancinante, tout à fait. Magnifique chronique maintenant dans Mauvais Genre. On commence avec vous, Jean-Pierre Dionnet.
Alors, je vais essayer d'être le plus bref possible.
Ah, ça, je connais ces promesses.
Comment se fait-il que soudain, alors ça a commencé il y a quelques années...
Avec tout ce qu'il y a sur la table, on va le barrer, je pense.
Voilà. Non, avec des films kitschissimes, avec Doris Day et Rock Hudson, avec tout d'un coup la splendeur de Rock Hudson devenu fils adoptif de Douglas Sirk, qui avait laissé son enfant derrière lui en Allemagne, comment se fait-il que tout d'un coup, il n'y en a plus que pour Rock Hudson. Alors, il y a un lit, un coffret où il y a du Cirque, du Howard Oaks, tout ce qu'on veut, chez Elephant, avec un très beau texte de Denis Rossano. Il y a un livre qui s'appelle « Géant, vie et mort de Rock Hudson » d'Adrien Gombeau. Il y a la réédition d'un film incroyable qui est « Seconds ».
Attends, on en avait parlé, oui.
Voilà,
extraordinaire.
De Frankenheimer. Et qu'est-ce qui sort de tout ça ? C'est que le choc Rock Hudson, qui fut le dernier acteur classique, on peut le dire, on voit son heurt dans « Géant » avec James Dean, qui ne peuvent pas se piffer. Lui sent qu'il est encore un acteur d'avant. Et ce que fait l'autre, comme Elizabeth Taylor d'ailleurs, il ne le supporte pas. Comment se fait-il qu'on nous parle de Rock Hudson, on nous parle de la découverte du fait qu'il a le sida. Bon, la maladie des PD. Et tout le monde dit c'est Dieu qui se venge. Et puis il y a tout à coup les transfusions sanguines. Et là, c'est plus Dieu qui se venge. Et tout à coup, il y a Burt Lancaster, il y a Elizabeth Taylor qui monte au créneau et on prend la maladie au sérieux. Mais en fait, ça passe au second plan dans le livre. Parce que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on peut se dire que c'est le dernier acteur du cinéma d'avant. Tout comme le personnage d'Opération Diabolique. C'est quelqu'un qui a toujours caché sa personnalité, qui est assez prédatrice d'ailleurs. Hein. Quand il couche utile. Presque toujours. Hein. Gilles Lollobrigida m'avait dit que elle était passée à ça, mais qu'il n'avait pas besoin d'elle. Elle avait senti son émoi, mais elle ne l'a pas eu. Eh bien, Rock Hudson, mauvais acteur découvert par Walsh parce qu'il a un bon look, va devenir un excellent acteur grâce à Douglas Sirk en tant que fils adoptif. Et puis, il va devenir une des dernières légendes, mais c'est pas sa vie qui m'intéresse, c'est sa survie. C'est le fait que tout d'un coup, il n'y en a plus que pour Rock Hudson. Tout comme à une époque, il n'y en avait plus que pour Cary Grant. Et en fait, ça se justifie complètement. Comme disait John Wayne, j'ai hésité entre Kirk Douglas, etc. Mais celui qui montait le mieux à cheval, celui qui était le meilleur cow-boy pour le dernier des cow-boys avec moi, c'est Rock Hudson. Donc quand c'est John Wayne qui dit ça, on est dans le paradoxe absolu. Et quand on le voit être un être quelconque, un être autre, avec une vie sans intérêt et devenir dans Opération Diabolique chez Sidonis, quand on le voit devenir le beau Rock Hudson, mais il n'est pas satisfait. Il n'est pas heureux. Il a eu ce qu'il voulait, mais il n'est toujours pas heureux. Donc c'est une histoire d'un immense acteur, à mon sens, qui ne peut pas être satisfait jamais. Sa soif ne sera jamais rassasiée. D'ailleurs, après ce film-là, il va refaire des séries, des films et tout, mais ça n'a plus aucun intérêt. Il va même faire Embryo, qui est totalement lamentable. Alors, je vais quand même finir sur quelque chose de plus gai. Pas du tout.
Non, ah bon.
Ce n'est pas plus gai. Il vient de sortir enfin un texte, un livre indispensable de celui qui était, à la même époque, l'équivalent de... Oui, de Kafka, avec l'humour noir, ou l'équivalent de Léo Peyrouthe, c'est Alexander Maurice Frey, dont on connaissait trois nouvelles. C'est paru à la dernière goutte, ça s'appelle « Mon nom est personne », rien à voir avec le film de Valérie et Léon. C'est l'histoire... Alors, Alexander Maurice Frey, c'est quelqu'un qui est soldat pour la Première Guerre mondiale, qui croise un coursier qui s'appelle Adolf Hitler. Voilà, ok. Et il écrit ce roman où un homme... un peu fou apparemment, achète le milieu d'une ville, fait un mur de 10 mètres de haut sur lequel il fait des courses automobiles, et s'attire la ire de la ville. Alors c'est extrêmement rigolo, c'est extrêmement bien écrit, c'est la fin d'une époque, celle de Guillaume II, avec les prémices de ce qui va suivre, et c'est sidérant, c'est le chaînon manquant de toute cette génération Kafka, Peyrouthe et lui. Frey, Alexander Maurice.
Frey, aux éditions La Dernière Goutte, Mon nom est personne. Fausto.
Bien, moi, mon nom
est Fausto.
C'est comme ça que j'allais rebondir. Non, mais je voulais dire qu'Embryo, c'était pas si nul. Mais bon, je vais pas commencer à rentrer dans ces débats. Tu n'aimes pas le Nosferatu des guerres, tu n'aimes pas Embryo, c'est pas l'objet de ma chronique ce soir. Alors, je vais commencer par une citation qui va être difficile pour vous à retrouver, c'est « Il a allumé les brasiers de la violence ». Cette citation, c'était l'accroche qui avait été publiée sur le recto de la VHS Scherzo Video, qui avait été édité au milieu des années 80 sous le haut patronage de Christophe Gans. Et à l'époque, le film Roaring Fire, dont il est question ce soir, édité chez Roboto Film, avait pour titre « Le feu de la vengeance », donc le titre en version française. Donc je vais faire un très court résumé, parce que c'est un film que d'aucuns qualifieraient de bordélique, mais que je préfère, moi, qualifier de libre. Alors, Roaring Fire, c'est le récit picaresque du jeune Joji, qui est un orphelin japonais exilé au Texas, qui part à la recherche de sa famille biologique. Après le décès de son père adoptif, le garçon retrouve la maisonnée de ses origines à Kobe, au Japon, mais finit sous les feux croisés d'un oncle yakuza nazi et d'une ribambelle de méchants gesticulants. Voilà pour le résumé. Le réalisateur, Jean-Pierre le connaît très bien, puisqu'il avait sorti l'un de ses films dans la collection Cinéma de quartier, c'est Norifumi Suzuki, qu'on connaît notamment pour Le couvent de la bête sacrée, qui est peut-être son titre le plus célèbre en Occident, n'est-ce pas Jean-Pierre ?
Film de nonne.
Voilà, et qui là, en fait, adresse une sorte de réponse au cinéma d'action hongkongais avec Roaring Fire. Roaring Fire, c'est une production Toei. La Toei, elle était connue surtout pour ses films de Yakuza et ses longs métrages d'action qui mettaient en scène de vilaines filles, souvent sur des motos. Là, Norifumi Suzuki, en fait, opère une sorte de greffe un petit peu étrange entre la comédie grivoise, le cinéma kung-fu, le cinéma d'action évidemment japonais. Bref, le film est une sorte de film un petit peu mutant qui est animé par un acteur formidable que les téléphages français connaissent très bien, pardon, qui s'appelle Hiroyuki Sanada, qu'on a découvert donc dans Sankukai et qui a ensuite eu une carrière absolument incroyable, à la fois dans le cinéma japonais, il a tourné plus de 7 films avec Kinji Fukasaku et puis aussi à l'international. Et Hiroyuki Sanada, c'est donc l'acteur principal, en fait, de Roaring Fire. Je vais quand même citer aussi l'un de ses compères dans le long métrage qui est Sonny Chiba que... Ouais. Effectivement, Jean-Pierre Radionnet connaît très bien aussi. Je pense que ma chronique s'adresse quasiment exclusivement à lui, en fait. Et pour le dire très simplement, Roaring Fire, voilà, c'est une sorte de collage dadaïste. C'est un film d'action comme on n'en fait absolument plus, qui, à l'époque, en fait, lorgnait du côté du marché international, donc essayait de s'ouvrir un petit peu. Et c'était aussi, je pense, les derniers soubresauts de liberté d'un cinéaste qui a toujours été indomptable et qui était Norifumi Suzuki.
Merci Fausto, et on termine avec une horde sauvage, les frères Karamazov.
Oui, mauvais genre, je frétille de joie. Toutes les occasions sont bonnes pour lire ou relire les frères Karamazov, le roman le plus indécent, provoquant, fabuleux et dégueulasse qui n'ait jamais été écrit. Et ça tombe bien. Une nouvelle traduction est sortie aux éditions Zulma. Pour vous, j'ai vérifié, elle respecte bien les obsessions de Dostoïevski, c'est-à-dire les odeurs de fumier, les perversions de l'orthodoxie, le corps à son état sauvage. Très chers auditeurs, que nous racontent les frères Karamazov ? L'histoire d'un tabou. Un père déteste ses enfants et fait tout pour les dévorer, les écraser, vivre plus fort qu'eux. Comment s'y prend-il ? Comme tous les bourreaux, il vole, il viole, il détruit. Les femmes de ses fils sont les siennes, l'argent qu'il gagne lui revient. Il pisse sur leurs terres et ne cherche qu'à les humilier. Comment s'en tirer avec un père pareil ? 4 chemins possibles, celui des 4 fils. En premier, j'annonce Alyosha, la voix de la sainteté, la pureté en personne. Reclus dans un monastère, il prêche la bonne parole et tente de tuer le père en se déguisant en son contraire. Un homme de qualité, qui voit dans la vie monastique la possibilité d'une respiration. Abolir les liens du sang, fuir la débauche héréditaire. J'appelle maintenant Dmitri, deuxième fils, celui qui singe le père en se vautrant dans les mêmes pièges, les putes, le jeu, l'argent. Pauvre Dmitri, si seul, si triste et par-dessus tout amoureux. Troisième enfant, Ivan, personnage de tous les possibles, de tous les doutes. Ivan cherche la foi mais s'arrête à cette donnée insupportable. Que l'homme souffre est une chose, qu'il porte les péchés du Christ est tout à fait envisageable, mais les enfants, les petits-enfants, pourquoi meurent-ils ? Oui, mauvais genre, c'est bien les frères Karamazov, le roman de toutes les perversions qui aurait fait pâlir Gilles de Rais en personne. Un texte sur la honte.
Merci Esther, c'est aux éditions Zulma. Merci Simon Johannin d'avoir été l'invité ce soir de l'émission Le fin chemin des anges.